Merci à toutes et à tous d'être ici aussi nombreux. C'est vrai que c'est réjouissant de vous voir tous ici. Et moi, je me réjouis d'animer ce débat avec mon ami l'historien Olivier Borgeot, qui vient donc d'éditer un très beau livre sur la bourgeoisie rurale dans le vignoble du Jura au XIXe siècle. Alors, vous allez me dire, comme vous le dites vous-même, c'est peut-être pas très sexy comme titre. Donc, on va revenir dessus pour nous expliquer exactement quels ont été les tas de vos recherches et puis parler de la bourgeoisie.
Pas très sexy. Oui, en réalité, j'avais inventé plein d'autres titres, mais c'est un éditeur sérieux qui pensait que la bourgeoisie rurale dans le vignoble du Jura au XIXe siècle était un très bon titre. Et ça commence très mal, bourgeoisie rurale. Déjà, c'est deux termes qui sont complètement antinomiques. On est toujours persuadé que la bourgeoisie n'existe qu'en ville. Elle a été beaucoup étudiée en ville, jamais à la campagne. Or, au XIXe siècle, 80% des Français, en 1850, vivent dans des villages de moins de 2000 habitants. Des bourgeois de la ville, ils n'en ont jamais vu. Les seuls bourgeois qu'ils connaissent, c'est la maison de maître. Vous savez, celle que vous qui voyagez en France, vous allez dans ces petits villages, et à côté de l'église, il y a toujours deux pylônes, une grille, une belle maison avec une glycine derrière, et puis un parc tout autour, quelques hauts murs. C'est celle-là. C'est ces bourgeois-là dont on va parler ce soir. Ils sont présents dans chaque village de France. Ils ont été oubliés jusqu'à aujourd'hui au profit de bourgeois, on le verra, peut-être plus conquérants que mes bourgeois ruraux. Mais c'est aujourd'hui important qui reviennent sur la scène.
Et de dire qui ils sont, parce qu'il y a une première question moi, qui me taraude, c'est qu'est-ce qui les différencie des bourgeois de la ville finalement ? D'abord, est-ce qu'on savait qu'il y avait des bourgeois à la campagne ?
Alors, est-ce que les historiens le savaient ? Oui.
Les historiens, oui, je pense.
Mais... Ils n'en parlaient pas, mais oui, absolument. On va parler aujourd'hui des bourgeois qui vivent à la campagne toute l'année. Depuis très longtemps, on habite en ville, mais une petite ville, hein, Lons-le-Saunier par exemple, et on a l'habitude, l'été, ou peut-être même de Pâques à la Toussaint, d'avoir une maison de campagne et d'y aller l'été. C'est pas cela qui m'intéresse. Moi, je veux vous parler des bourgeois qui vivent toute l'année à la campagne, même l'hiver, parce qu'ils ont des habitudes, vous allez le voir, qui sont à la fois citadines, ils ont tous les codes de la bourgeoisie de la ville, mais ils ont aussi des codes ruraux dont on va parler.
Alors vous parliez de Lons-le-Saulnier, il faut quand même préciser, pour ceux qui ne le savent pas, mais comme c'est filmé et que ça sera retransmis, que la bourgeoisie dont on parle, c'est celle du Jura. Lons-le-Saulnier étant dans le Jura, et vos recherches ont été très ciblées dans un petit village que vous connaissez bien, Arlet, dont vous allez nous parler et nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce village.
Arlet, c'est un village très traditionnel du vignoble du Jura, dans cette partie du Jura qui n'est pas les plateaux, la montagne, la neige, le froid. C'est une partie donc vigneronne, un village qui s'est avéré extrêmement intéressant. D'abord parce que j'y ai une maison dans laquelle j'ai trouvé beaucoup de documents anciens et qui m'ont permis de recommencer mes études d'abord en M1, M2 à l'Université de Lyon, puis faire une thèse et enfin écrire ce livre qui est issu de cette thèse. Et c'est un village qui s'est avéré un véritable laboratoire pour la bourgeoisie rurale. On va revenir sur mes sources, mais finalement, qu'est-ce que c'est que le bourgeois rural ? Qu'est-ce qui... Un bourgeois... Il y a trois types de bourgeois ruraux, et il y avait justement à Arlet, pendant tout le XIXe siècle, trois familles qui représentaient ces trois types. Le premier type du bourgeois rural, c'est le propriétaire terrien. Le gros propriétaire. Alors, il habite dans son manoir, mais il a 40 hectares de terre. 40 hectares au XIXe siècle, quand on sait que le cultivateur moyen en a 3, c'est beaucoup. Alors, évidemment, il travaille pas la terre lui-même, mais on va voir à quel point il s'y intéresse de très près. Ce sont ses revenus. Si le climat est défavorable, si le paysan ne lui apporte pas assez d'argent de son loyer parce que lui-même n'a pas fait une assez bonne récolte, le bourgeois a moins d'argent, il dépend entièrement de ses terres. Premier type de bourgeoisie, extrêmement répandu partout en France. Deuxième type de bourgeoisie, c'est cette bourgeoisie qui mélange à la fois propriétaire de terres et un métier. Alors des métiers à la campagne, il n'y en a pas beaucoup. On ne peut pas être fonctionnaire, ils sont en ville. On ne peut pas faire du commerce, et c'est aussi en ville. Les métiers, ils sont très limités. On peut être médecin, et effectivement, dans cette deuxième famille, il y a un médecin. On peut être avocat, et le frère de ce médecin est avocat et est employé par le château de ce village. Comme régisseur. Et puis, c'est à peu près tout. Troisième famille, troisième type, justement, les notaires. Les notaires, au début du 19e siècle, ne sont pas vraiment bourgeois. Ils sont assez proches des paysans. Et petit à petit, ils gagnent beaucoup d'argent. Vous le savez, à la campagne, beaucoup de procès, beaucoup de parcelles, beaucoup de... Et donc, beaucoup d'actes de contrats de mariage, d'inventaire après décès. Ils gagnent de l'argent. Et petit à petit, et en particulier sous la Troisième République, à la fin du 19e siècle... Ils représentent vraiment des familles bourgeoises importantes. On a ces trois types de familles dans ce village. Et ça me fait parler, ça me donne envie de vous parler de mes sources. Parce qu'évidemment, l'historien, il doit travailler sur des sources et il doit les faire parler. Mes sources, c'est d'abord les archives départementales du Jura. Archives départementales, vous avez justement tous les actes de notaire, très important. Vous avez aussi toute cette France administrative du 19e siècle qui met des impôts sur tout, le nombre de fenêtres que vous avez à votre maison, si vous avez un chien, selon la taille du chien, vous êtes imposé, si vous possédez une calèche, une administration rigoureuse qui a gardé de nombreuses traces. On retrouve tout ça aux archives départementales. Ça permet évidemment d'avoir un cadre très important. Arlay a l'avantage d'avoir un énorme château, énorme par sa taille, 360 fenêtres, mais aussi par son importance. Il était possédé au 19e siècle, il l'est encore aujourd'hui, par une famille noble totalement européenne. Elle possède une vingtaine de châteaux disposés en Autriche, en France, en Belgique. Ils ont des hôtels particuliers à Bruxelles, à Paris. Ils vont dans leur château une semaine par an, peut-être, dans le Jura, mais ils emploient d'abord le médecin, c'est le médecin du château, et le médecin des domestiques du château, l'avocat, c'est le régisseur du château, et ils gardent toute une correspondance qu'ils peuvent avoir avec les bourgeois locaux. Je m'en suis beaucoup servi.
C'est-à-dire que vous avez été toqué au château. Comment vous avez fait ? Parce que d'un coup, vous faites vos recherches. Vous êtes allé voir les gens dans le village. Voilà, je suis Olivier Bourgeau.
Exactement.
Est-ce que j'ai besoin de voir vos archives ? Les gens ont accepté facilement ?
Alors, pas tous, mais beaucoup de maisons sont ouvertes. Et je me suis aperçu, le Jura... vous situez le Jura, parce que souvent, la deuxième question, c'est les Vosges. Non, alors le Jura, c'est à la frontière avec la Suisse. C'est une zone, finalement, où il n'y a pas eu d'enjeux importants, de guerre, de destruction. Et ce sont les mêmes familles qui vivent dans les mêmes maisons, parfois depuis 200, 300 ans, dans des grosses maisons, ces maisons bourgeoises. Et qui gardent leurs archives. J'ai retrouvé un nombre considérable d'archives, très bien empaquetées, avec marqué « à brûler », mais qui n'avaient pas été brûlées, que j'ai retrouvées dans les greniers, et certaines familles très heureuses que j'aille puiser dans ces archives et travailler dans ces archives.
Alors, vous avez procédé comment ? C'est-à-dire, vous avez fait des photos, toutes ces archives, ou vous avez travaillé sur place, chez les gens ?
Alors, on est au 21e siècle. J'avais mon téléphone, et donc j'ai fait des photos, parfois dans des... en plein hiver, en enlevant mes gants, en remettant mes gants, tellement il faisait froid dans ces maisons pas chauffées. Ce qui m'intéressait, c'est les correspondances que j'ai pu trouver. Très vite, je me suis dit qu'il y avait là un matériau inédit, déjà, parce que c'était toutes des lettres qui n'avaient jamais été lues, et puis qui donnait la voix à des inconnus, comme vous et moi. On a l'habitude de lire des lettres de grands auteurs. On a gardé, évidemment, des lettres de George Sand. On a gardé... Mais là, il s'agit de cette courrier d'individus bourgeois. L'activité épistolaire est une activité importante dans la vie bourgeoise. Chaque matin, on y consacre 2 heures, 3 heures. Et parfois, on garde des lettres. Alors... pourquoi on en jette, pourquoi on en garde, ça dépend un peu des circonstances. Je suis tombé sur à peu près 10 000 lettres que j'ai lues in extenso. J'en ai utilisé dans mon livre à peu près 1 200, et des lettres qui racontent une vie quotidienne, vraiment la vie de tous les jours.
Et c'est là où ça devient très surprenant et où je vous suggère d'aller vraiment lire le livre d'Olivier Morgeot, parce qu'on y découvre quand même un langage qui est tout à la fois porté sur une certaine élégance et parfois pas du tout.
C'est très étonnant. C'est un des constats de cette bourgeoisie rurale. Ce côté perméable que peut avoir la ruralité sur la bourgeoisie. Ce sont tous des bourgeois qui ont été éduqués, les garçons dans des collèges. Souvent, ils ont fait des études supérieures, ils sont allés à la ville, ils sont allés à Paris, ils sont allés à Strasbourg étudier la médecine. Ils ont donc une solide éducation. Les jeunes filles ont été toutes dans des pensionnats tenues par des bonnes sœurs, où elles ont appris à écrire, à manier une orthographe parfaite, un imparfait du subjonctif utilisé régulièrement. Et en même temps, dans ces lettres, on trouve des mots, alors tout un vocabulaire très familier,
plus que familier parfois, permettez-moi de vous couper, vous allez nous le dire.
Alors, familier dans le sens où... vraiment, en lisant les lettres, on a l'impression d'entendre des voix. C'est presque comme des monologues. Un gendre qui écrit à son père pour lui raconter la vie à Harley sous l'Empire, parce que son beau-père est parti vivre 6 mois à Paris, et il lui raconte semaine après semaine tout ce qui se passe. Le beau-père garde toutes ses lettres et les ramène à Harley. Deux amis de pension qui s'écrivent, un jeune qui écrit à un copain paysan, et le copain paysan qui lui répond avec son orthographe et qui lui répond un jour de pluie, parce que comme il dit, c'est le seul jour où il y a un peu de temps pour prendre un stylo et écrire. Et une femme qui écrit à son fils tous les jours, 4 pages, pendant 5 ans. Son fils est militaire, il habite à Carcassonne. Elle se languit de lui, elle l'exige qu'il lui réponde. Et donc, elle lui décrit sa vie de tous les jours. Elle le décrit avec des mots qui... alors, tous utilisent des mots impressionnants, mais entre deux hommes, un gendre, un beau-père, le fait qu'ils écrivent des foutres et des merdes paraît assez...
Ça surprend possible. Moins qu'une mère à son fils.
Une mère à son fils qui décrit sa voisine bourgeoise avec laquelle qu'elle fréquente presque tous les jours en disant cette salope, qu'elle utilise régulièrement. Le couple de notaires à la retraite et maintenant maire du village, ce sont les bâtons de merde. Elle émaille, en fait, ce courrier d'une conversation parlée qu'elle écrit, mais qui laisse penser que la conversation à table, en famille, dans ces bourgeois ruraux, était influencé évidemment par le parler local.
Mais c'est là où on peut deviner aussi que peut-être à fréquenter la population locale, les paysans avec qui ils vivent beaucoup, il y a des frontières qui, de langage qui sont très très fragiles finalement.
Exactement. C'est un autre constat que j'ai fait sur cette bourgeoisie rurale, c'est qu'elle a une amplitude de sociabilité immense. Elle est capable de recevoir le prince d'Arenberg qui vient passer sa semaine dans son château. Alors, ils sont dans ses petits souliers. Madame Berthelet ne se met pas à table parce qu'elle a très peur qu'il sonne à ce moment-là et qu'il voit qu'elle est en train de manger, ce qui serait très mauvais genre. Mais elle les reçoit, elle discute, etc. Le mariage bourgeois se fait à peu près 100 km à la ronde. Et donc, ils ont une interconnaissance de département en département assez vaste, beaucoup épistolaire. Hein, tout ça, c'est très épistolaire. Mais la vie de tous les jours à la campagne, vous qui y avez peut-être vécu au mois de décembre, c'est que le village d'Arlay, les rues sont c'est de la boue. Il n'est pas question de sortir, il n'est pas question d'aller rendre visite à son ami qui habite à 4 km, sa meilleure amie. Et donc on écrit au mois de décembre en disant « Puissions-nous habiter plus proches l'une de l'autre, 4 km, nous nous verrons donc en avril ». Ce qui veut dire que la vie de tous les jours, c'est avec la fermière d'en face. C'est les copains des fils quand ils étaient gamins qui continuent à venir toquer à la porte tout au long de leur vie et qui continuent à discuter dans le salon. Ce qui veut dire aussi qu'un même après-midi, dans ce joli manoir d'Arlay, vous avez la marquise qui est là, vous avez la postière. Vous avez un paysan qui est venu parce qu'il pose des questions sur l'investissement qu'il veut faire pour un prêt. Vous avez, et tout ça se mélange, harmonieusement, en tout cas beaucoup plus qu'à Paris, où à Paris, le bourgeois, il habite dans le 7e arrondissement, 8e, 16e, évidemment, et ça ne lui viendrait pas à l'idée de discuter avec un ouvrier du 11e arrondissement, qui ne voit pas, qui ne connaît pas, dont il ne connaît pas l'existence. Ça, il ne discuterait pas non plus avec le prince d'Arenberg. Jamais le prince d'Arenberg, à Paris, dans le 7e arrondissement, n'irait voir le bourgeois. À la campagne, tous ces murs tombent. C'est une sociabilité qui est vraiment intéressante à étudier.
Mais alors, au XIXe siècle, on va bientôt vivre, enfin, ça dépend à quel moment on se situe, mais la première révolution industrielle. Donc, l'innovation va battre à tout vent, tout à coup, le chemin de fer. Comment on vit l'innovation qui arrive à Arlay, par exemple?
Oui, alors on la vit pas. C'est-à-dire que le mot progrès n'apparaît dans aucune des 10 000 lettres. Ce qui est quand même le progrès du 19e siècle, le progrès. Pas du tout. On la vit même avec angoisse. C'est-à-dire qu'on voit le monde qui tourne, qui change autour de soi et on n'en fait pas partie. Ça va être d'ailleurs la ruine de cette bourgeoisie rurale à la fin du 19e siècle. On y reviendra. Mais c'est peut-être aussi pour ça que les historiens qui sont plus friands de bourgeois conquérants ont plus travaillé des bourgeois de l'industrie. Les bourgeois de la campagne, ils ont une position à la campagne qui est très claire. Hein. Ils sont bien au-dessus de tout ce monde campagnard, mais ils sont à mi-chemin, bien sûr, entre la noblesse et la paysannerie. Ils essayent surtout de garder leur position. Et tout au long du 19e siècle, ils évoluent très peu. Et ça va d'ailleurs provoquer leur chute.
De quelle manière ?
Alors, c'est évidemment un siècle en évolution, un siècle de révolution, hein, une révolution française, un empire, le retour des rois, d'autres révolutions, une première république, une deuxième république, un deuxième empire, une troisième république, sans arrêt. Jamais ou très peu relayé dans mes courriers. La politique les intéresse, mais de loin. Ils sont, eux, ils veulent la stabilité et ils veulent que les choses ne changent pas.
Ne viennent pas jusque chez eux.
N'arrivent pas jusque chez eux. Ce qu'elles finissent par arriver. Deux choses vont changer radicalement la vie des bourgeois à la campagne. Le chemin de fer. Le chemin de fer, 1860. Le chemin de fer, enfin à peu près dans les années 1860, le chemin de fer envahit toute la France. On construit partout des voies ferrées qui, bon, aujourd'hui, certaines n'existent plus, partout. Le blé qui faisait la vigne était évidemment totalement local. Tout était cultivé à 10 km à la ronde. Le blé, il arrive d'Ukraine en 1860. Il coûte 10 fois moins cher. D'un seul coup, leur économie est bouleversée. Ils ne savent plus quoi faire. Donc cette rente de la terre, cette rente foncière sur laquelle tout leur univers reposait, ne s'écroule pas complètement, mais d'un seul coup, et vacille. Et ils se retrouvent à avoir moins de revenus. Toute cette domesticité, à la fois dans leurs vignes et dans leurs maisons, commence à immigrer en ville, donc quitte la campagne. Eux, ils sont là, ils sont radicalement attachés à leur campagne. Et puis, les stockades finales au XIXe siècle, c'est le phylloxéra. Le phylloxéra détruit toutes les vignes. Dans le Jura, il arrive, comme tout le reste, très tardivement. Et autant dans le Midi, il arrive dans les années 1860, dans le Jura, 1895, la dernière récolte. Mais à partir de là, plus de vignes, plus de revenus de la vigne, qui est un revenu très important chez les bourgeois. Et donc, c'est heureusement, ils ont anticipé, ils ont marié leurs enfants en ville. Donc, ils reconstruisent cette bourgeoisie à la ville. Ils gardent leur maison de campagne. Ils n'y habitent plus. Et ils se reconstruisent une bourgeoisie à la ville. Et ils laissent la place à une nouvelle population bourgeoise, plus paysanne d'extraction, plus vigneronne, qui travaille elle-même la terre, mais qui envoie ses enfants en pension, faire des études, jouer du piano. Ils sont remplacés.
Alors, vous parliez de jouer du piano au quotidien. Quels sont les loisirs, finalement? Ne joue pas qu'au piano.
Non. Le piano est un... Je parle du piano parce que c'est une part très importante du loisir bourgeois. Qu'est-ce que tu en penses? On distribue peut-être ce courrier? Non.
Mais oui, Jérémy, distribuez.
Oui. Vous avez en main un... Alors, je vous conseille d'essayer de lire d'abord cette page pour que vous peigniez et que vous sachiez quel travail j'ai pu faire à décrypter ces pattes de mouche. Et derrière, vous avez aussi la traduction écrite. Et c'est un courrier qui a été écrit par Madame Berthelet à son fils, cette femme qui écrit quatre pages de lettres chaque jour. Elle écrit, je vous ai choisi la lettre du 14 décembre 1883, on est le 14 décembre 2023, voilà. Donc il y a 140 ans, voilà ce qui se dit dans le Jura pendant quatre pages. Vous le lirez tranquillement. Je veux revenir sur quelques phrases. C'est le mot piano qui m'y a fait penser. Dans cette lettre, elle écrit qu'elle déchiffre du Guillaume Tell et du Chopin. La musique est donc très importante. En 1850, il y a trois pianos dans Arlay, un au château et deux dans les deux familles bourgeoises qui possèdent de la terre. En 1910, par exemple, il y a 40 pianos dans Arlay. Le piano est sans arrêt ouvert. Il joue une heure ou deux heures par jour. Il chante. Et à force de jouer, ils atteignent un très bon niveau. Et ils sont capables, quand ils se reçoivent entre amis, de se mettre au piano, d'ouvrir des partitions, de jouer, de chanter, d'improviser. Enfin, ils atteignent un niveau de musique très important. Alors là, le 14 décembre, Elle aurait bien aimé jouer, mais hier, il faisait tellement froid que je n'ai pas joué du piano. L'huile de la lampe était figée. L'huile de la lampe, ce sont des lampes à huile, elle se fige à 4 degrés. Ça veut dire que dans le salon, dans le grand salon, il fait 4 degrés. C'est le paradoxe de ces familles bourgeoises. Autant les paysans vivent près de leurs bêtes, sont réchauffés par leur bétail. Les bourgeois, ils ont 6 chambres à l'étage, un grand salon, un petit salon, une salle à manger. Tout l'hiver, ils sont transit froid. Ils ne chauffent finalement qu'une seule pièce, la salle à manger. D'ailleurs, elle l'écrit à un moment, nous écrivons tous trois autour de la table de la salle à manger. La salle à manger, elle se vante là un petit peu, parce que la salle à manger à la campagne, c'est nouveau. Au 19e siècle, au début du 19e siècle, il n'y a pas de pièce pour manger. On mange là où il fait chaud. Donc, si la chambre est chauffée par un feu, on dresse la table dans la chambre. Si c'est l'antichambre, on s'assera dans l'antichambre. Enfin, c'est vraiment, c'est mobile là. On mange vraiment là où il fait chaud.
Mais les domestiques, où sont-ils, eux, pendant ce temps-là,
hein? Les domestiques, ils sont à la cuisine. Ils sont. Alors,
mais ils dorment où? À la cuisine aussi.
Alors,
l'hiver.
Les domestiques, ils sont mal logés. Hein. Ils sont mal logés en ville, mais alors à la campagne, ils sont encore plus mal logés. Les domestiques hommes, la tradition, c'est qu'ils dorment à l'écurie. Directement, on leur met une paillasse à côté de la vache ou à côté du cheval.
Ils ont chaud.
Les domestiques femmes, elles n'ont pas d'endroit pour dormir. À partir de 1880, éventuellement, sous l'escalier, on leur aménage un réduit avec une porte. Sinon, elles dorment dans la cuisine, sur des paillasses qu'elles sortent de derrière la cuisinière. Et elles dorment là. De toute façon, elles sont levées avant tout le monde. Elles sont couchées après tout le monde. Les conditions de vie sont dures pour les domestiques.
Et alors, puisqu'on est dans la cuisine, qu'est-ce qu'on mange autour de la table de ces bourgeois ruraux?
Alors, imaginons, donc on est le 14 décembre 1883, c'est un vendredi, donc elle raconte ce qu'elle a mangé la veille, parce qu'elle était invitée chez un ami. Cet ami, c'est le régisseur, l'avocat qui est régisseur au château d'Arlay. Donc c'est un petit repas traditionnel de copains, ils sont 6 à table, et c'est vraiment un repas classique. Dans toutes ces lettres, j'ai retrouvé à peu près 150 menus, 2 personnes qui déjeunent ensemble, une personne qui déjeune seule, une femme, 3 femmes, une femme, un homme, etc. Donc on peut se faire une idée de ce que ces bourgeois pouvaient manger. Alors là, il faut quand même le lire, parce que sa table était très bien arrangée, un gros plat de géranium au milieu, 2 bateaux de petites travées, 2 de beurre, 4 compotiers, pommes, poires, oranges et une salade d'ananas. Je n'en avais jamais mangé, c'est très bon. Cet Henri Vanier, il travaille pour le prince Arimbert. Alors, il importe à Arlay des choses nouvelles. D'ailleurs, très souvent, il mange des huîtres, alors qu'on est au plein milieu du Jura. Il mange beaucoup de truffes. La truffe est très à la mode au 19e siècle. Et puis, c'est encore l'habitude, ce qui ne se fait plus du tout à Paris, à la campagne, de présenter sa table au service à la française. C'est-à-dire que c'est l'esbrouf. Il faut absolument que, quand les invités arrivent, ils soient impressionnés. Et donc, on met sur la table tout le dessert, les compotiers, etc., pour en faire des pyramides, des fleurs, etc. Bref, il faut que la table soit magnifique. Ensuite, on dessert, on enlève tout ça et on commence. Et on commence le potage, le bœuf, le pâté de bécasse, le cuisseau de sanglier rôti, ça fait déjà 3 viandes, des choux-fleurs au jus, le brochet au bleu, parce qu'il fallait quand même un poisson. Tout ça, c'est un petit dîner du mercredi soir, hein, ou du jeudi soir. Des petits pots de crème au chocolat, des meringues, un gâteau aux amandes. Il faut, en fait, montrer qu'on est riche. On est entouré par une population qui ne mange de la viande qu'au moment de fêtes, des moments importants, des mariages, voilà. Et là, le bourgeois veut se distinguer et sert systématiquement trois viandes. C'est presque obligatoire dans tous ses déjeuners, dîners, lorsqu'il reçoit trois viandes. Et le pâté de bécasse est assez rare parce qu'elle va le commenter dans la lettre du lendemain. Elle va dire « Ah, si nous étions assez riches, nous aussi, nous aurions du pâté de bécasse. »
Mais alors, est-ce qu'ils mettent aussi de jolis vêtements lorsqu'ils reçoivent ? Donc, comment s'habillent-ils tous les jours ? Il y a une tenue du dimanche, une tenue du samedi, du matin, du soir ?
C'est ce qui aussi distingue les bourgeois de leur, des villageois, c'est qu'il n'y a pas de dimanche.
C'est-à-dire ?
Il n'y a pas de week-end, c'est dimanche
tous les
jours.
Ils ne travaillent pas.
Et donc,
travail quand même.
Ils s'habillent. D'ailleurs, les femmes ont besoin de domestiques pour s'habiller parce que tout est boutonné dans le dos. Tout est agrafé dans le dos. C'est aussi presque pour montrer qu'on ne peut pas le faire soi-même et qu'il faut un domestique. Ils s'habillent. En revanche, dès qu'ils sortent, ils se mettent des sabots. Parce qu'ils vont sortir dans des rues avec toutes les bouses de vaches, l'été, l'hiver, la gadoue, etc. Donc ils marchent à la fois en sabots et corsetés avec leurs très beaux habits. Ils marchent très peu en réalité.
Mais ça veut dire qu'ils prennent avec eux leurs jolies chaussures ?
Non, pas du tout. Ils arrivent en sabots chez la marquise.
Bon.
Ils enlèvent leurs sabots. Ils restent en chaussettes. Et ils discutent. C'est très étonnant, cette bourgeoisie à la campagne. Oui. Tout ça dans leurs beaux habits. Ils marchent très peu. On l'a vu, l'hiver, ils ne se déplacent pas. Les femmes sont corsetées. Elles font 50 mètres. Elles sont essoufflées. Donc, on ne marche pas. Le bourgeois a absolument besoin d'un cheval et d'une calèche pour aller rendre visite, pour sociabiliser. Dans son village, il y a trois familles. Ils ne peuvent pas se contenter de ces trois familles. Donc, ils vont à 20 km à la ronde, pas plus. Par exemple, cette Madame Mertelet écrit régulièrement à sa meilleure amie, son amie d'enfance, son amie de pension, qui habite à 43 km, à Champagnole, sur le plateau, qu'elle n'a pas vue depuis 23 ans. 20 km, c'est à peu près le maximum de déplacement pour ces bourgeois. Ils rendent visite régulièrement l'après-midi, mais tout est toujours improvisé, évidemment. Et on ne peut pas prévenir qu'on va rendre visite. Donc on se déplace à Domblanc, qui est à 6 km d'Arlay, et puis on arrive, et ces mêmes personnes qu'on allait voir sont allées voir d'autres amis cette même après-midi. Donc voilà. Mais c'est un... Et on s'invite comme ça. On s'invite aussi à déjeuner, puis on reste un soir, deux soirs. On peut rester pendant un mois sans avoir prévenu. C'est une improvisation constante.
J'ai une question. Comment on fait pour se rencontrer des gens nouveaux ? Les mariages sont des mariages arrangés ?
Arrangés, absolument. Ouf. Absolument arrangés. Il y a certaines... Un entre-gens... qui dépasse donc la frontière du village, bien évidemment, dans la bourgeoisie. Et c'est souvent le petit frère, la petite sœur d'une cousine qui s'est mariée elle-même avec quelqu'un qui venait d'un autre département, etc. L'amour intervient peu, un petit peu quand même, parce que en analysant d'un peu plus près les actes de mariage, les actes de naissance, on s'aperçoit qu'il y a eu quelques naissances au bout de 7 mois. Donc dans la bourgeoisie, il est possible de se rencontrer, de s'aimer et de se marier après. Mais tous les mariages sont évidemment arrangés. On ne lit les premiers mots de... même pas d'amour, mais en tout cas de tendresse, qu'à la toute fin du 19e siècle. Le mariage, c'est vraiment un contrat. D'ailleurs, c'est intéressant, les familles bourgeoises, dès la Révolution française, qui a imposé la loi qu'on ne pouvait pas privilégier un enfant par rapport à d'autres, et qu'il fallait qu'on partage ses biens de façon égale pour tous ses enfants, les bourgeois ont décidé de ne faire que 2 enfants. Alors évidemment, leur patrimoine était divisé en 2, mais comme ce fils bourgeois allait rencontrer une jeune fille bourgeoise qui elle-même avait un patrimoine divisé en 2, moitié plus moitié, ça refaisait 1, et donc comme ça, on était sûr que les patrimoines continuaient de génération en génération. Et c'est absolument typique de la bourgeoisie. Ils n'ont, là, dans toutes ces familles, que deux enfants pendant tout le 19e siècle. Vraiment,
ils y arrivent.
Ils y arrivent, oui, ils y arrivent, ils y arrivent.
Mais Madame Berthollet, par exemple, est-ce qu'elle savait déjà avec qui mariait son fils ? Vous l'avez su, ça, au travers de sa correspondance ?
Madame Berthollet, elle est fataliste. Et quand son fils lui annonce qu'il va se marier avec sa cousine, elle est folle de rage. Elle déteste sa belle-fille. Elle l'écrit à l'autre fils... sans arrêt, mais sans arrêt. À un moment, elle écrit à son fils, « J'ai eu une discussion avec ton frère. Il a parlé de son mariage comme d'une fosse à purin dont on subit l'odeur et dont on ne peut jamais se débarrasser. » Elle est plutôt très
elle
franche
charmante.
Là-dessus. Charmante, charmante. Mais en même temps, cette jeune femme est riche et va leur permettre de rénover le manoir. Et elle écrit, Charles s'est sacrifié, comme je m'étais sacrifié, comme ma mère s'était sacrifiée. Et c'est une vie de sacrifice conjugal.
Donc le sens de la famille n'est pas celui que nous connaissons aujourd'hui, en réalité.
Sens de la famille très différent, très très fort, hein, manifestement, beaucoup de pression pour les enfants. Les enfants qui restent à la maison, évidemment, jusqu'à leur mariage, et très des cellules familiales qui sont très très soudées, mais plus dans une communauté d'intérêt d'argent que dans une tendresse.
Il y a des scandales parfois.
Des scandales.
Dans les petits villages, il y en a souvent. Donc, à l'époque, il devait certainement y en avoir un peu aussi.
Il y en a. Ils se savent tout de suite. Ils se connaissent tout de suite. Là encore, la bourgeoisie qu'on imagine rigide, habillée de noir, collée montée, et surtout ne parlant jamais ni d'argent ni de sexe, dans toutes ces lettres que j'ai trouvées, évidemment dans les lettres de cette formidable Madame Berthollet, mais aussi dans les lettres plus anciennes du début du siècle, on parle beaucoup d'argent en fait. L'argent n'est pas du tout un tabou, et c'est une constance. Il faut dire qu'ils sont toujours à la limite en fait. Un budget, pour vous donner une idée, un facteur à Arlay, en 1860, gagne 400 francs par an. Un bourgeois vit sur un pied d'à peu près entre 6 000 et 10 000 francs par an. Par exemple, chez le médecin Amédée Vanier, ces 6 000 francs, ils lui proviennent de 2 000 francs, c'est ses revenus de la terre, 2 000 francs, c'est la dot de sa femme, parce qu'on se marie avec un revenu régulier. Et 2000 francs, c'est à peu près son métier et ses activités professionnelles. À Paris, en revanche, un bourgeois de cette même classe sociale, hein, qui est vraiment une bonne bourgeoisie, mais pas la très grande bourgeoisie, il ne peut pas vivre s'il n'a pas 20 000 francs. Donc, ce sont des bourgeois qui vivent à la campagne, mais qui ne pourraient pas vivre en ville parce qu'ils n'en auraient pas les moyens.
Mais est-ce qu'ils sont heureux, finalement, ces bourgeois à la campagne ?
C'est une question typiquement 21e siècle. La question ne se pose pas. Ils sont dans une fatalité. Et ils sont dans... D'ailleurs, Madame Berthollet, très souvent, écrit « Ah, si j'étais riche... » Alors, si j'étais riche, qu'est-ce qu'elle fait ? Pas du tout l'idée de s'acheter un hôtel particulier, d'avoir des chevaux arabes. Non. Si elle était riche, en fait, elle veut juste améliorer son quotidien et surtout ne pas déchoir. C'est-à-dire qu'ils vivent dans une position, ils ont une position au village qui leur a été léguée par leurs parents et ils veulent la transmettre à leurs enfants de façon identique. Elle écrit « Si j'étais riche, j'aurais des serres et je ferais pousser des fleurs extraordinaires, j'aurais des tableaux. » Je rénoverai la maison. La maison, pour le bourgeois, la maison à la campagne, c'est l'aide de noblesse. Vous savez, les nobles, c'est très facile. Ils donnent leur nom de famille. Ils ont une particule. On sait immédiatement qu'ils sont bourgeois. Ça leur suffit. Ils n'ont rien besoin de rajouter. le bourgeois qui s'appelle Vanier, mais il y a le bedeau qui s'appelle Vanier, la postière, elle s'appelle Vanier aussi. Malheureusement, c'est... donc le bourgeois, c'est sa maison qui fait son emblème, et il y attache une importance considérable. Il la fait visiter. Dès qu'il a quelqu'un qui vient prendre le thé, hop, on lui fait faire le tour de la maison, on lui montre les bibelots, il y a des vitrines, on veut montrer, et puis surtout on veut montrer qu'on est une bourgeoisie ancienne. Donc on affiche les portraits de famille. Alors les portraits de famille, surtout dans la salle à manger, c'est obligatoire, parce que dans cette salle à manger, qui est la seule pièce chauffée, qui devient la pièce d'apparat encore plus que le salon, et parce que c'est une nouveauté, parce que c'est la pièce qu'il faut avoir, on y expose, on y montre l'ancienneté de sa famille. C'est parfois un peu usurpé. Quand on gratte un peu, on s'aperçoit vite que c'est une paysannerie souvent enrichie au moment des ventes de biens nationaux. Mais on veut montrer qu'on est un peu comme les familles nobles, qu'on a un pédigré. Alors tout le monde, les bourgeois font de la généalogie dès le 19e siècle. Et surtout, prennent leur maison comme un emblème. Et d'ailleurs, ces maisons sont entourées de parcs. Le fait d'avoir des arbres dans un village, c'est complètement extraordinaire. Les villages du 19e siècle, souvent on se dit « Ah, ce village, comme il fait ancien, on a l'impression d'être au 19e siècle », il faut les imaginer sans aucun arbre. L'arbre, ça fait de l'ombre et ça empêche les cultures. Et d'avoir un parc avec des arbres qui ne servent à rien, ça frappe l'imagination. Et c'est un symbole bourgeois par excellence, le parc autour de la maison. Donc maison, parc, c'est la particule de la noblesse.
Alors bon, il ne se pose pas de questions sur le bonheur, d'accord. En revanche, société des apparences, ça, on a compris, ça ne change pas trop d'aujourd'hui, si on peut dire. Mais qu'est-ce qu'ils nous apprennent finalement sur nous, ces bourgeois ruraux, vous-même, parce que je sais que vous avez fait beaucoup de recherches aussi sur votre famille, c'est ce qui vous a donné le goût de l'histoire. Au final, on est tous en train de discuter, on découvre la vie de ces bourgeois, assez simple, mais malgré tout dans les apparences. Qu'est-ce que ça pourrait dire de nous aujourd'hui ?
De nous, je ne sais pas, mais il y a un point sur lequel je voudrais revenir aussi, et que j'ai appris en travaillant sur ces bourgeois ruraux, c'est le rôle de la femme et de l'homme. C'est un sujet très actuel. Là encore, on a enfermé la femme bourgeoise citadine chez elle, s'occupant entièrement de son intérieur, recevant, ne sortant pas, n'ayant pas d'affaires à l'extérieur, mais gérant son petit empire à l'intérieur de chez elle, et l'homme, au contraire, gérant les relations sociales extérieures, le commerce, etc. Rien de tout ça à la campagne. Les rôles sont complètement interchangeable. La femme bourgeoise discute avec le paysan, vend son vin. Vous verrez dans cette lettre, là, c'est elle qui vend le vin jaune à 5 francs le litre.
Vous voulez dire que la femme travaille ?
Alors, ni l'homme ni la femme ne travaillent, mais en réalité, ils travaillent puisqu'ils doivent gérer leur domaine. Mais c'est pas forcément l'homme qui travaille. Enfin, en tout cas, ce travail, par exemple, avec les paysans, le budget qu'on peut faire tous les jours, le budget de dépenses. Et les hommes peignent, jouent du piano, font des bouquets de fleurs, parfument leurs lettres, envoient des fleurs séchées dans tous leurs courriers, selon les saisons, sont beaucoup moins dans un rôle masculin qu'on a bien voulu l'écrire, en tout cas à la campagne. Et ça, c'était vraiment intéressant de remarquer ça.
Est-ce qu'ils lisent aussi ?
Ils lisent beaucoup. Les livres sont chers. Au début du siècle, c'est très cher. À la fin du 19e siècle, c'est un peu moins cher, mais ça reste cher. Donc, quand ils ont un livre, ils le prêtent. Et ils le prêtent tout autour, tous leurs amis. Et ils lisent des nouveautés. Zola, par exemple, quand il sort ses romans, ils sont scandalisés par Zola, et c'est pour ça qu'ils l'achètent, parce qu'ils ont absolument... Madame Berthelet dit que Madame de Grivel, sa voisine et chère amie, se plaint de tel bouquin parce qu'elle ne retrouve pas les grivoiseries du bouquin précédent. Donc, ils lisent beaucoup. Ils lisent la journée. Il y a aussi une grande différence entre Paris et la campagne, c'est la nuit. La première lanterne qui va être posée à Arlay, et c'est en 1898. À Paris, l'éclairage de rue commence dans les années 1820. En 1840, on vit la nuit, on éclaire, on se reçoit le soir à Paris, à la campagne, on se reçoit à déjeuner, jamais le soir. Pourquoi ? Mais parce que sinon, il faut éclairer et ça coûte très cher. Alors parfois, on reçoit déjeuner, les conversations durent, c'est l'après-midi, on est le 14 décembre, la nuit tombe, on continue à discuter, ça ne vient à l'idée de personne d'allumer une bougie. On discute dans le noir, il y a juste le feu qui fait une vague lumière, et puis après tout le monde va se coucher, la nuit, on ne sort pas. La nuit, c'est un moment vraiment à la campagne qui frappe les voyageurs citadins qui vont à la campagne à ce moment-là.
Bon, alors nous sommes un 14 décembre, il fait nuit, mais on ne va pas aller se coucher. En revanche, moi, je vais vous inviter vraiment à vous procurer le livre que Olivier Bangeot va vous dédicacer, bien sûr. Mais on va surtout essayer de discuter un petit peu avec vous là pendant une dizaine de minutes. Vous avez peut-être des questions, peut-être que vous avez vous-même des maisons. Ah oui, oula. Alors, vous allez nous la dire et puis moi, je vais la répéter pour que tout le monde l'entende. Monsieur ?
Quid de la vie culturelle, concerts, spectacles, théâtre ?
Alors, le monsieur voudrait savoir s'il y avait une vie culturelle auprès de ces bourgeois dans les campagnes, concerts, théâtres.
Alors, il y a l'harmonie de Ruffet qui se produit une fois par an. Et donc, ils vont à l'église d'Arlay et ils écoutent l'harmonie de Ruffet. Mais alors, aucun commentaire sur la musique, mais ils disent que ils ont tenu 2 heures, bien que dans l'église, il faisait 6 degrés. Ils vont très peu, en réalité, à Lons-le-Saunier et voir une pièce de théâtre. Il y a parfois, au moment des foires, il y a 4 foires par an dans ce village, il y en a d'autres ailleurs, il y a des battleurs. Qui viennent avec leur tréteau, qui font une petite pièce de théâtre. Ça se passe au moment des foires. Très peu de choses sur la vie culturelle. En revanche, comme ils sont férus de musique, quand ils sont étudiants à Paris où ils passent leur temps à aller écouter des concerts, quand ils sont en ville, quand ils vivent en ville. Une fois qu'ils sont rentrés à la campagne, plus du tout. Mais ils sont assez férus de musique pour, par exemple, dans les années 1885, aller jusqu'à Bayreuth, écouter Wagner, à une époque où Wagner est honni en France parce qu'il est allemand et parce qu'on déteste tout ce qui est allemand après la guerre de 1870. Donc là-bas. Ils ont un très, très bon niveau de musique. En revanche, ils vont écouter très peu de choses à la campagne.
Alors attendez, oui, voilà.
Moi, je voudrais savoir ce que tu as pu trouver concernant leur démarche spirituelle.
Alors là, on va aborder la démarche spirituelle des bourgeois ruraux dans le Jura au XIXe siècle.
La place de l'Église augmente avec le siècle. On arrive à la Révolution française, tout le monde se tutoie. Et l'Église n'existe plus, même dans la bourgeoisie. Et puis, petit à petit, par les femmes, dans les années 1840-1850, l'Église reprend de l'importance et elles inculquent à leurs enfants, qui sont nés dans ces années-là, l'importance de la religion catholique, bien sûr. Cette spiritualité se lie peu dans les lettres du quotidien, mais un petit peu. J'ai eu un cas intéressant d'une femme dont la fille, dans les années 1860, veut devenir religieuse. Et elle s'y oppose. Et elle écrit à l'évêque en disant « Je ne veux pas que ma fille devienne religieuse. Ça la choque, elle ne veut pas. » L'évêque lui répond, mais vous ne voulez pas de Jésus-Christ comme gendre ? Elle, texto, mais vraiment, elle l'écrit. Parce qu'elle est religieuse, donc elle épouse le Christ, et le Christ rentre dans cette famille. Et il la menace d'excommunion. Enfin, c'est vraiment un cas important. Ce qui montre qu'une femme bourgeoise pouvait se rebeller et avoir assez de cran pour écrire à un évêque. Finalement, elle va accepter que sa fille devienne religieuse et elle va même prendre cet évêque comme confesseur, peut-être pas un peu de sadomasochisme là-dessus, mais c'est aussi un signe que la bourgeoisie a un certain recul par rapport à la religion et souvent un recul par rapport au curé de campagne. Qui, au XIXe siècle, est souvent d'extraction paysanne et ne correspond absolument pas aux habitudes bourgeoises. Et donc, ils vont à la messe, bien sûr, mais ils sont peu en phase avec leur curé, qui est un curé paysan.
Notre question. Non, mais il y avait plein de mains levées, mais c'était peut-être les mêmes questions. Mais écoutez, merci à toutes et à tous. Peut-être que vous voulez dire un petit mot de la fin ou tout a été dit.
Non, je regarde mon petit papier, mais on a parlé de pas mal de choses. Pour terminer, je voudrais vous dire combien je suis heureux aujourd'hui de partager ce travail parce que ça a été 4 ans d'études. Presque monastique, où j'étais comme un bénédictin avec mes archives, mon ordinateur, mes livres, les bibliothèques. Et c'est un peu maintenant un moment de partage et ça me fait très plaisir.
Mais partager la recherche, voilà.